Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud.
Bonjour Florian.
Aujourd'hui, une émission décryptage anti-stupidité.
Tout à fait. On arrête de nous prendre pour des poires.
D'accord. Tu vas parler du traitement contre le cancer. Tu vas aussi parler d'un article du Canard enchaîné.
Plusieurs même.
Plusieurs, donc du 22 janvier ou plusieurs...
Plusieurs du 22 janvier, oui, d'accord. Qui ont attiré mon attention, on va dire.
Entendu. Tu vas parler de la réforme des retraites, des violences policières. Tu vas aussi parler de la réforme des retraites pour les professeurs. Vous perdez un tiers de votre retraite.
Tout à fait. Tout à fait.
Tu vas expliquer ça en détail. Donc les professeurs qui sont également impactés. Voilà, et un compte-rendu sur les fongicides.
Oui, alors dans le cadre justement de ce développement du cancer, dont on parlera donc dans la deuxième moitié de l'émission, sur les fameux SDHI, c'est-à-dire les inhibiteurs d'une enzyme en fait qui est indispensable pour la respiration cellulaire et qui touche tout le vivant, y compris nous, et que l'ANSES, dans sa grande mansuétude, a autorisé vis-à-vis donc des lobbies des industries type Monsanto et compagnie, Bayer, Syngenta, etc. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, tout d'abord, un petit balayage anti-stupidité, parce que vraiment, voilà, il y a des tas de choses qui m'ont impacté ou choqué.
Encore aujourd'hui.
Voilà, oui, tout à fait. Alors, on commence par une petite, une petite chose. Hein. Là, c'était le point, voilà, je vous laisse regarder ceci pour ceux qui le peuvent. Le point, s'est-il dégonflé, les chiffres qui fâchent, ceux qui mijotent encore.
Alors, une photo d'Emmanuel Macron.
La photo est pas mal, hein, voilà. Mmh. Alors, effectivement, Macron et les réformes, c'est complètement de la poudre aux yeux, parce que quand on regarde à l'intérieur du point, on voit essentiellement quand même des articles tout à fait en faveur contre les personnes qui auraient l'air de protester contre ces réformes, hein, d'accord ? Donc Macron face aux ingénieurs du chaos, comment les manipulateurs d'opinion tentent de faire passer une réforme égalitaire pour une régression sociale. Donc je vous laisse regarder ça avec jubilation. Hein. Nos démocraties ne sont pas équipées pour fonctionner dans un climat d'hystérisation du débat politique. Alors il y a qu'à voir, hein, un climat d'hystérisation politique. Vous avez par exemple dans le Canard enchaîné du 22 janvier, un petit article en première page qui s'appelle « Attention à la marche » et qui fait écho justement à cette fameuse réforme des retraites pour les professeurs. Alors, ils ne disent pas là-dedans quand même que les professeurs vont perdre à peu près un tiers de leur retraite. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'avec le nouveau système, on n'utilisera évidemment pas que les meilleures années, les 6 derniers mois, les meilleurs, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais on ne n'utilisera surtout pas les primes. En particulier, en fait, les primes dans nos professions de prof sont assez basses. Mais effectivement, on nous dit qu'on va revaloriser nos salaires pour compenser tout ça. Alors, revaloriser nos salaires, on nous parle de 70 à 90 euros net par mois en plus pour les profs débutants. Sachant je crois qu'on est 18e au niveau européen en position de paiement, si tu voulais, sur rémunération des professeurs. Mmh, donc, ouais. On fait partie des plus mal payés en Europe, quoi. Et donc, on nous explique 500 millions l'année 1, 1 milliard l'année 2, 1,5 milliard l'année 3, et que donc on va monter en charge pour payer aux professeurs de plus en plus de choses, mais peut-être qu'aux plus jeunes, allez savoir. Aux entrants dans la profession. En tout cas, on nous explique que dans 20 ans, il y aura eu un delta de 100 milliards dépensés. Sauf que dans 2 ans, l'administration actuelle n'y sera plus et que donc, pour le moment, on nous demande de faire un chèque en blanc en disant ne protestez pas contre la réforme et promis, plus tard, on vous augmentera. Voilà.
C'est une réforme qui t'impacte toi personnellement parce que tu es également professeur.
Moi, je suis professeur, effectivement. Mmh. Et donc, je cite tout le monde à surtout essayer d'avoir son petit potager, d'avoir quelques poules et puis d'apprendre à se débrouiller autrement et planter quelques fruitiers et s'entraider avec d'autres pour pouvoir éventuellement faire du troc, parce que je crois qu'au niveau de nos retraites, on n'aura pas grand-chose dans l'état actuel des choses. Hein. Voilà. Donc, effectivement, il y en a que ça choque, que ça gêne, et je peux comprendre. Donc, dans cette première page du Canard, vous avez un petit article central là, qui s'appelle « Juste pourrir un peu », puisque l'idée, c'est, au niveau du gouvernement, d'attendre que la réforme pourrisse. On voit bien qu'on maintient le cap, la présentation présentation le 24 janvier donc au Conseil des ministres de la réforme comme si de rien n'était. On a déjà parlé la semaine dernière de la planification de débats accélérés à l'Assemblée pour début février. Donc vraiment, c'est comme si il ne se passait rien. Ce qui fait qu'il y a également des gens qui visiblement réagissent avec colère vis-à-vis de la CFDT qui aurait été vue comme ayant fait trop de compromissions ou, voilà, vis-à-vis du gouvernement. Mais également, apparemment, il y a des fois des gens qui s'en prennent un petit peu. Alors, c'est rien de bien méchant, c'est des sifflets et des slogans contre Macron quand il est allé avec son épouse au Bouffe du Nord, donc à un spectacle, une représentation théâtrale. Mais effectivement, ce que Le Canard nous dit à la fin, c'est que, c'est contre-productif parce que c'est l'image d'un mouvement contre la réforme jusque-là plutôt soutenu, malgré ses dires qu'elle risque de pourrir en premier. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que sincèrement, les gens qui font grève, les gens qui manifestent, ils semblent n'en avoir absolument rien à cirer. Donc, il me semble qu'il serait quand même peut-être pas mal que les personnes qui veulent continuer dans cette réforme, coûte que coûte, même si la population n'est pas d'accord, ressentent un peu le vent du boulet et qu'ils sentent que, voilà, ils sont pas persona grata, voilà, que ce soit au plus haut niveau de l'État ou des ministres ou autres. Après tout, si les personnes qui ont à souffrir de la révolte entre guillemets contre ça ne sont que les travailleurs qui perdent des journées de salaire à faire grève et tout ça pour rien parce que les autres continuent de la même manière, eh ben il faut changer de méthode peut-être, allez savoir. Voilà. Alors ensuite, je vois dans cette première page un article intitulé « Maligne Le Pen ». Alors Maligne Le Pen, c'est Marine Le Pen qui s'annonce déjà comme candidate contre Macron au présidentiel de 2022. Alors moi, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'on est en train de nous refaire le coup de 2017 quand même, parce que Marine Le Pen, c'est le repoussoir idéal. Une fois qu'on s'est assuré de faire mousser dans la presse avant le premier tour, toutes les attentats et les insécurités possibles qui vont faire que les gens vont
mettre les insécurités en avant
pour faire reporter les votes loin des candidats, des vrais candidats qui pourraient peut-être être élus au deuxième tour réellement et qui ont une chance, on va dire, d'être élus au deuxième tour et qui pourraient constituer des vrais concurrents. On se débrouille pour les éliminer en siphonnant des voix qui pourraient aller les alimenter vers Marine Le Pen, en s'assurant que ensuite au deuxième tour, qui que ce soit qui se trouve au deuxième tour contre Marine Le Pen se verra l'objet d'un plébiscite national, puisque en face il y aura évidemment que des personnes qui vont dire surtout ne votez pas Le Pen, donc voilà. Donc on est en train de nous refaire le coup, et si c'est Marine Le Pen contre Macron, ben Macron repassera au deuxième tour, même s'il nous a fait avaler toutes ses couleuvres avant. Voilà, donc surtout, moi j'en appelle à la population, ne vous laissez pas avoir, ça c'est une sorte de coup moté, puisqu'on est dans une émission anti-stupidité, je voudrais voilà, attirer l'attention sur ce genre de risque. Voilà. Alors, les histoires de violence, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure de gens qui auraient insulté un petit peu ou sifflé Emmanuel Macron au théâtre, on n'en est vraiment pas là quand on parle de violence policière. Vous avez vu tout ce qui se passe évidemment avec voilà, les personnes qui se font voilà, éventuellement rouer de coups
pendant
à terre.
Manifs, oui, pendant les manifs,
voilà, ouais. Les fameuses personnes éborgnées, etc. Alors, vous avez un article donc en page 3 du Canard qui s'intitule « Violence policière, le casse-tête de Macron ». En fait, c'est plus un casse-tête pour les gens, mais voilà, évidemment, c'est un jeu de mots. Alors, on nous dit, depuis novembre 2018 et le début de la fronde des Gilets jaunes, le bilan des bavures est sidérant. Un décès, 5 mains arrachées, 25 personnes éborgnées et plus de 300 hospitalisations pour des blessures à la tête. S'y ajoutent 334 signalements suivis d'investigations confiées à l'IGPN, la police des polices. Et le bilan judiciaire, en 14 mois, seuls 2 flics ont été renvoyés en correctionnel. Alors, évidemment que là, on est dans une situation de bavure policière très claire, mais puisqu'on ne résout rien au niveau social, puisqu'on veut écraser toute rébellion, l'idée, c'est d'envoyer, de monter les Français les uns contre les autres, d'utiliser les Français que sont, et souvent des petites gens aussi, que sont les policiers, pour les envoyer au charbon en première ligne, cogner sur les manifestants. Et évidemment, il est difficile ensuite de reprocher aux policiers de faire ce qu'on leur a demandé de faire, même si finalement, on ne peut jamais reconnaître que c'est ça qu'on leur a demandé.
Alors, il y a beaucoup de vidéos qui tournent justement à propos des policiers qui sont en direct filmés.
Tout à
en
fait.
Train de frapper des.
Voilà.
Des
alors, à propos de caméras, justement, c'est très bien que tu en parles, parce que vous vous souvenez de cette espèce de supercherie qui voulait dire qu'on allait limiter les bavures policières en équipant les policiers de caméras qu'ils allaient pouvoir accrocher à leur uniforme et qui allaient filmer ce qu'ils étaient en train de faire. Donc notamment, on considérait qu'ils allaient pouvoir accrocher une caméra et faire déclencher cette caméra quand, par exemple, ils allaient tirer, faire un tir de LBD, donc de lanceur de balles de défense.
Quelque chose obligatoire.
Voilà.
Ils seraient filmés tout le temps.
Voilà, exactement, alors qu'ils sont en manif. Alors,
interdiction de couper sa caméra, du coup.
Interdiction de couper sa caméra. Sauf que, comme on voit dans l'article qui est juste en dessous de celui que je vous citais juste avant, 10 000 caméras anti-bavure au placard, eh bien, on voit que, un, ces caméras, elles s'accrochent mal. Deux, elles ont une autonomie ridicule qui fait que, finalement, elles sont éteintes pratiquement tout le temps. Quant aux gendarmes, ils en ont retiré, je crois, une toute petite quantité, voilà, 95 sur 5 000 qui leur étaient destinés. Voilà, donc les policiers, en fait, les laissent au placard ou les utilisent pas, ou les allument pas. De toute façon, quand même, pensez-y. Je veux dire, ça c'est quoi ? Ce sont des caméras qui vont être au cœur de la police. Ça veut dire que s'il y a une bavure, vous imaginez bien qu'on ne va pas nous donner la vidéo correspondant à la bavure. D'accord ? C'est une vidéo qui est censée être une sorte d'élément dissuasif, qui est là pour dire attention, on filme ce que vous êtes en train de faire, chers policiers, donc ne faites pas de...
Donc en fait, c'est un moyen de les protéger eux surtout.
C'est un moyen de les dissuader de faire des bavures policières en sachant qu'on filme ce qu'ils sont en train de faire.
Mais on protégeait quand même certains aussi. Ça peut arriver.
Peut-être, potentiellement, mais on filme ce qu'ils voient, en fait. D'accord ? Donc, par exemple, si un policier est en train de tirer sur un manifestant avec un LBD, eh ben, on va voir la balle, où arrive la balle, et on va voir l'attitude du manifestant au moment où on lui tirait dessus. Mais quand même, réfléchissez-y. Et il y avait sur CNews il y a quelque temps, peut-être une semaine, une émission intéressante avec le député Lassalle, figurez-vous, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et c'était bien. Quand on voit les gens qui sont victimes, là, avec les yeux éborgnés, etc., etc., vous voyez combien de casseurs habillés en noir, de black blocs, etc. Vous en voyez combien qui sont éborgnés ou qui sont avec une main arrachée, etc. Aucun. Les gens dont on parle là, qui ont été éborgnés, c'était tous des manifestants normaux, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a les casseurs ? Ben, visiblement, on n'a pas les ordres pour les arrêter ou on n'a pas les ordres pour tirer sur ceux-là. Parce qu'en pratique, sinon, dans les victimes, on devrait en avoir plein de ceux-là. C'est ceux-là qui sont dangereux.
Alors, c'est quoi la cause pour toi ? C'est un manque de formation peut-être des policiers ? C'était dit ?
Non,
ça,
je pense que... Enfin, il y a...
Mentionné.
Alors, à mon avis, c'est...
Manque de formation, manque de...
Non, non.
Ou alors,
non
c'est
je pense qu'ils sont sur les rotules. Ils le disent d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Hein, en fait, ils en peuvent plus. Hein, voilà, ils le disent à la fin. Macron est piégé. Alors ça, c'est un policier qui parle. Hein. Macron est piégé. Il a besoin des flics car la contestation violente ne va pas s'arrêter. Mais s'il cogne trop fort sur la troupe, c'est-à-dire s'il nous reproche trop de faire ce qu'il nous demande de faire, en gros, mais qu'il ne peut pas assumer ou admettre nous demander, elle risque de déposer les casques et les boucliers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de poursuite contre eux, évidemment. Les syndicats policiers ne pourront rien faire tellement on est à bout de nerfs. Je veux dire, c'est clair, ils sont en surmenage. Déjà, on a lâché vaguement quelques primettes pour essayer de les motiver à tous les week-ends continuer à faire ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui se font porter pâle. Ils n'ont pas le droit de se mettre en grève, théoriquement. Mais si on pousse un peu trop, il risque d'y avoir une rébellion. Donc, pour les autres, c'est effectivement composé avec cela, quoi. Hein. Voilà, donc c'est très important, sachant qu'on est vraiment, là, vraiment dans une situation où il y a deux poids, deux mesures tout le temps. Je veux dire, quand on voit comment Ghosn s'était concocté un magot de plus de 100 millions, c'est aussi un article en page 3 du Canard, et où on voit que c'était pour sa retraite, figurez-vous, quand il allait prendre sa retraite de chez Nissan, Renault-Nissan, eh ben, il avait des sous de côté qui étaient prévus. C'est-à-dire que, en fait, c'est un système où les Japonais, quand il y a un chef d'entreprise japonais qui gagne plus de 800 000, alors je ne sais plus si c'était dollars à l'époque, oui, c'est à peu près ça. Eh bien, oui, 800 000 euros. Pour l'équivalent en yens de 800 000 euros, il faut qu'ils fassent une déclaration publique de leurs revenus. Donc, effectivement, pour Ghosn, bah, il ne voulait pas apparaître comme trop payé. Mmh. Et en fait, lui, il gagnait officiellement plus de 8 millions d'euros contre moins de 2 millions pour le patron de Toyota, alors que Toyota a un chiffre d'affaires de 2,5 fois Nissan. D'accord. Donc, il était déjà extrêmement surpayé par rapport à la moyenne des Japonais. Ça, c'était l'aspect officiel des choses. Mais en pratique, il y avait tout ce qui était sous la table. Donc, en fait, il y avait une sorte d'enveloppe qui était organisée d'avance pour que, en fait, il touche de l'argent en différé, hors compte. dons déclarés, qui allait être provisionné et qui allait être, lui être versé quand il quitterait Nissan, quand il serait à la retraite en 2022. Donc il y en a qui préparent leur retraite de façon bien plus confortable que beaucoup d'autres, visiblement. Donc ceci étant, sachant que monsieur Ghosn, et justement s'est mis dans son tort, il a effectivement, lui et Nissan, dû payer, figurez-vous, des millions aux gendarmes de la bourse américaine, le SEC. Ça, j'y vois un peu la même chose que ce qui se passe avec ce qui s'est passé avec Alstom ou avec Siemens ou autre. J'y vois les Américains qui s'érigent en gardiens de la morale des affaires et qui commencent à prendre pour cible telle ou telle entreprise. Vous vous souvenez du racket dont Alstom avait été victime, qui a ensuite fragilisé l'entreprise et qui a ensuite amené à sa vente à General Electric, américain aussi, qui a suivi toutes les procédures. Étant donné que la Nissan a refusé de fusionner avec Renault en 2018, on se demande si l'objectif qui était derrière tout ça n'était pas justement de faire tomber Nissan et de faire tomber Renault, du coup, dans l'escarcelle d'une grosse entreprise américaine, allez savoir. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment vous parler de cancer et de SDHI. Alors, vous avez en page 5... un article, en page 5 du Canard, donc du 22 janvier, un article intitulé « Vive la succinate déshydrogénase ». Donc ce nom barbare est en fait le nom d'une enzyme. Une enzyme qui est très importante pour la respiration cellulaire de tous les êtres vivants. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que cette enzyme, elle est contrée par un fongicide, les SDHI, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, qui donc se déclinent maintenant en toute une panoplie de fongicides produits par les grandes marques type Bayer, Syngenta, Monsanto, etc. Et l'idée générale, c'est qu'ils sont utilisés depuis déjà à peu près 8 ans, 7-8 ans, sur nos champs, avec une explosion de l'utilisation depuis 2017-2018, sachant que en 2017, vous avez une équipe de chercheurs qui a sonné la sonnette d'alarme et qui a contacté l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Alors vous avez tous les détails dans ce livre là de Fabrice Nicolino, le journaliste, intitulé « Le crime est presque parfait ». Donc Fabrice Nicolino, le crime est presque parfait. Et si je reprends un petit peu la chronologie de ce qui s'est passé, eh bien, vous avez un coup de fil donc d'un ponte des recherches sur la nocivité des SDHI pour la santé, y compris la santé humaine, qui a eu lieu donc en 2017. Alors, c'est Monsieur Pierre Rustin qui est directeur de recherche au CNRS. Sachant qu'il n'y a eu aucune réaction de l'ANSES pendant 6 mois, qu'ensuite, en avril 2018, lui et 8 autres personnes ont fait une tribune dans Libération, donc ont utilisé un média grand public plutôt qu'une publication spécialisée pour tirer la sonnette d'alarme, parce que nous sommes tous impactés. L'ANSES a daigné répondre en disant que pour le moment, il ne voyait pas de risque inacceptable. Alors, je ne sais pas, ça veut peut-être dire qu'il y a un risque acceptable pour la population. Je voudrais vous expliquer qu'il n'est pas acceptable du tout. On va voir comment ça marche. Et donc, évidemment, il y a eu une convocation de ces chercheurs à l'ANSES qui les a écoutés visiblement d'après ce qu'ils font ressortir comme dans un tribunal. Et ils n'ont absolument pas pu en voir gain de cause. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Je vous invite pour cela à lire un livre très rapide à lire qui s'appelle « Cancer, un traitement simple et non toxique », qui s'intitule ceci, c'est le docteur Laurent Schwartz. Il faut que vous compreniez bien que la mitochondrie, qui est un ancêtre, on peut dire c'était des bactéries, si tu veux, qui ont été incluses dans nos cellules et qui ont fait par symbiose une sorte d'association avec nos cellules, qui sont responsables de la respiration cellulaire, c'est-à-dire qui utilisent le glucose en le brûlant en présence d'oxygène pour libérer de l'énergie. Ces mitochondries, quand on empêche, parce qu'on empêche leurs enzymes de fonctionner, par exemple, quand on empêche ce qui permet de faire rentrer le glucose et l'oxygène dans la mitochondrie, on empêche ce fonctionnement. Donc la cellule est obligée de se rabattre sur un système de fermentation qui est beaucoup moins efficace. Donc elle se gorge de sucre, elle a besoin de sucre. Et pendant ce temps-là, elle va développer, des sous-produits qui vont être des sous-produits, de transformation partielle. Et ces sous-produits vont servir de base à la division cellulaire. Ça va donner les briques pour que la cellule plus puisse se diviser. Donc c'est pas très compliqué, et Otto Warburg, comme il l'explique ici, dans les années 1920, donc il y a un siècle, avait déjà montré ce processus, donc ça fait un siècle qu'on connaît ça, qu'on sait que si on s'attaque à la respiration cellulaire des mitochondries dans nos cellules, eh bien, on crée des fermentations et on crée du coup une reproduction, une duplication, une division incontrôlée des cellules et donc des cancers. Donc, je vous expliquerai ça en détail un peu plus une prochaine fois si ça vous intéresse, mais effectivement, on est dans une situation où on sait parfaitement ce qu'on est en train de faire et on le fait quand même. Donc, il est temps que nous aussi, on tire le cocotier. Achetez bio. Faites le plus simple possible, écrivez à l'ANSES, manifestez, bougez.
Merci beaucoup, Maud.
À bientôt. Prochaine.